La glaneuse que nous rencontrons aujourd'hui est Pauline Bunny, journaliste de formation, curieuse de nature et carolo de cœur. Pauline part en Égypte pour parfaire ses connaissances linguistiques en arabe. De photographe, elle deviendra cinéaste engagée.
Le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça.
Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole.
Nous étions à 23% de femmes.
Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique.
Ça, c'est du cinéma.
C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. Je trouve ça...
On est la deuxième moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde.
Moi, je suis née à Charleroi et j'ai grandi en grande partie à Gilly, justement. Donc, c'est l'endroit où j'ai envie de travailler maintenant, que j'ai envie de raconter en image aussi. Quoi. C'est un endroit qui me fascine, où moi j'ai été très heureuse, mais qui est un endroit très pauvre, très délaissé. Enfin, voilà, c'est dur quand même. C'est une réalité sociale qui est hyper dure, Gilly. Et je pense que ça, grandir là-bas, m'a rendue meilleure. Quoi. Tu vois, j'ai vraiment cette sorte de conviction-là que Charleroi a participé à être la personne que je suis en bien, quoi. Et parce que c'est quand même génial. T'es à Charleroi, tu parles avec tout le monde. Enfin, il y a un côté chaleur humaine. Je crois qu'il y a aussi un côté où la condition commune est renforcée parce que comme c'est un ancien... cette ville industrielle où la condition d'ouvrier a pris un peu le dessus sur les autres différences, tu vois. Il y avait cette espèce de solidarité comme ça. Mes parents étaient... ils sont pensionnés tous les deux maintenant, mais ma maman était prof, instit, et puis elle est devenue directrice de cette école-là, une école communale. Et puis mon père, il était prof de gym au collège des Jésuites, et donc à Charleroi aussi, et kiné. Donc j'ai la chance d'avoir grandi dans un milieu pas très intello, mais en même temps très ouvert, où il y avait juste l'envie que je m'épanouisse, que je lise des livres. Enfin, aucun de mes choix n'a jamais été questionné. Au contraire, j'ai toujours été encouragée par mes parents à faire ce que j'avais envie de faire, en fait. À ce moment-là, je crois que j'avais juste envie de parcourir le monde, de rencontrer des gens, être en contact avec de nouvelles personnes, entendre leurs histoires. Enfin, voilà, j'adore ça. Et ben, journaliste, c'était quand même... vraiment plus indiqué, en fait. Et donc très vite, enfin, c'est venu quand même très vite. Et la photo, c'est venu assez vite, c'est que en fait, c'est venu même avant l'IEX. J'ai passé un an en Australie, en fait, dans un échange. Mais donc la photo, oui, ça me semblait facile et aussi un super moyen d'entrer chez les gens. Et ça, je le crois toujours. Je crois que c'est la photographie, enfin l'appareil photographique est un outil magnifique parce que les gens te disent, tu fais une interview, tu restes 10 minutes avec eux, tu dois faire un portrait en photo, bah, tu passes plusieurs jours, plusieurs semaines, enfin, tu vois, c'est, t'es là quoi, pour attraper la bonne image. Donc je crois que c'est ça qui fait la différence. J'ai fait plusieurs sujets au Bangladesh où j'ai été d'abord pour une commande et après, bah, du coup, j'ai continué à... Enfin, j'y suis retournée pour faire plein de sujets là, sur les femmes violentées à l'acide, sur les apatrides, les biharis, sur des réfugiés qui venaient du Pakistan. Et puis après, j'ai été au Congo plusieurs fois. J'avais été pour mon mémoire de fin d'études. J'étais en Albanie, au Kosovo, enfin voilà, j'ai essayé de faire des sujets comme ça. Donc je faisais du reportage, je pense plus social. C'est très particulier comme manière de rencontrer les gens, parce qu'on rentre dans leur vie en fait, dans leur intimité parfois. Et donc ouais, ça permet de vivre d'autres réalités. Et c'est trop gai en fait. C'est ça, je crois que c'est ça que je kiffe. Je m'en étais pas rendu compte aussi bien que maintenant en fait, je crois que je kiffe vraiment ça. J'ai grandi à Gilly, Charleroi, dans un milieu quand même où l'arabe avait une place, quoi. Il y avait pas mal de personnes d'origine maghrébine. Ou... C'était une langue avec laquelle je sentais qu'on avait un souci, quoi. Mais sans savoir vraiment pourquoi. Et donc très vite, je me suis dit, il faut que j'apprenne l'arabe. C'est ça, en fait. C'est comprendre, rentrer dans un autre mécanisme, une autre logique, pour comprendre mieux les personnes qui parlent cette langue et aussi comprendre mieux pourquoi on a tellement un problème avec cette langue. Et donc, j'ai commencé à faire des espèces de stages. Enfin, j'ai reçu des bourses du CGRI à l'époque On me demande pas pourquoi ça tient, mais c'est une institution de la communauté française qui donnait des bourses pour aller étudier les langues. Et donc j'étais deux fois au Maroc, à Rabat, et c'était génial. Et puis après, j'ai cherché quelque chose de plus long en me disant, en fait, c'est ça qui va faire la différence aussi, parce que je me rendais bien compte que j'étais dans une masse de gens qui avaient envie de devenir photojournaliste, quoi. Que ça allait être dur aussi de se différencier, de se démarquer, que j'étais pas, sans doute pas la meilleure en photo non plus. Donc comment est-ce que je pouvais me différencier, avoir quelque chose de spécial qui ferait que je bosserais. Et l'arabe, ça me semblait super. Et donc, j'ai cherché quelque chose et j'ai trouvé une bourse là à plus long terme. Mais il n'y avait rien. Je voulais aller en Syrie, il n'y avait rien. Donc, finalement, je me suis retrouvée en Égypte. Mais je ne connaissais rien de l'Égypte. J'avais aucune... Rien, vraiment. Je crois que je n'avais jamais rencontré un Égyptien de ma vie. Ou une Égyptienne, d'ailleurs. Mais du coup, j'ai débarqué là et ça a été violent, quoi. Mais la première année, bon, j'avais des cours d'arabe, mais j'étais tellement... submergée par tout ce qu'il y avait à vivre là, à découvrir la Palestine. J'ai bourlingué et j'étais vraiment genre en mode waouh. Enfin, je crois que c'est la plus grosse claque, enfin avant la révolution évidemment, mais que je me prenais de jamais, quoi. Et voilà. Et donc je suis restée parce que normalement c'était un an, mais au bout d'un an mon arabe n'était pas terrible, j'avais pas fait beaucoup de photos, donc je me suis dit ok, je m'installe ici comme photographe. Ça, c'est ce qui fait peur quand tu commences à avoir une parole publique. Non, je suis encore personne, mais tu vois, quand tu commences à avoir une parole qui est quand même écoutée, ce qui est une grande chance, je crois, que plein de gens n'ont pas et devraient avoir. Mais quand tu as cette parole-là, tu... ça, c'est le truc un peu déstabilisant. Tu te dis, mais... oui, comment tu restes au bon endroit, à la juste place, tu vois, comment tu... C'est des choses qui me préoccupent beaucoup, ça. Mais je crois tout le temps, en fait. Je crois qu'on le fait aussi dans le processus de création, de fabrication de nos films. Enfin, j'espère qu'on ait une grande majorité à le faire. C'est que t'es dans un élan et puis à un moment donné, tu t'arrêtes. Ah, tiens, ça, comment ça va être reçu? Comment ça va être compris? Qu'est-ce que ça dit pour toute une partie de gens que je ne représente pas, tu vois? Voilà. Pense à tout, finalement, à tous les films que j'ai faits. Je crois qu'il y a ce moment où cette question se pose. Dans Shems, ben, c'est très clair parce que c'est une histoire... une histoire d'amour entre deux nanas, une belge et une égyptienne, et que donc il y a d'office ce regard croisé, et que là la question se pose de comment le film va être reçu par des égyptiens, des égyptiennes, des gens qui sont les premiers concernés. Mais tu vois, là c'est évident, j'ai l'impression, mais après par exemple dans Petite ça s'est posé, quoi, bien sûr, sur les images qu'on utilisait, le sensationnalisme de certaines images, ça s'est posé sur Shift en fait quand même aussi, évidemment sur Rester Vivant, bah, ça se pose parce qu'il y a l'aspect sécurité des personnages qu'on raconte, dont on raconte la vie, quoi. Oui, donc je crois que ces questions-là de... En fait, c'est de juste place, peut-être de juste distance, parce que ça s'appliquerait aussi à la photographie et à la manière dont tu racontes les choses et comment ça va être pris par les autres. Ben ouais, ça, c'est des questions, je crois qu'on doit, se poser, quoi. Qu'on a la responsabilité de se poser.
بقول له انت فاتت فوره ايه ده ايه ده دي مشكله كبيره يعني.
Rester vivant, oui, ça reste un peu confidentiel. Même si je sais qu'on a parlé à beaucoup de gens, j'ai souvent des retours encore maintenant, tu vois, super sur ce film. Mais voilà, ça reste confidentiel. Et puis quand une des protagonistes a été en prison pendant un an et demi, on s'est posé la question, est-ce qu'on utilise le film pour faire campagne, parce qu'on a fait une énorme campagne pour elle, mais en fait, utiliser le film, c'était trop dangereux parce qu'il n'était pas trop au courant. Et donc, ça l'incriminait encore plus. Donc là, on a mis vraiment les choses... On a fait encore moins de publicité qu'on en fait d'habitude autour du film, ou s'il y avait une projection, parce qu'il y en a quand même encore... de temps en temps. Donc voilà. Donc, mais moi, il y a plein de mes potes qui disent « Mais comment tu peux aller en Égypte ? Ils m'aiment bien, quoi. Il faut croire qu'ils m'aiment bien. » Mais moi, j'adore l'Égypte, donc ça m'arrange, quoi. Mais moi, oui, j'ai vraiment une relation hyper... je me suis trouvée, en fait. J'ai l'impression que j'ai trouvé... quand je suis arrivée là-bas, quand j'étais ado et tout, on disait beaucoup que j'étais agressive et que je parlais de manière véhémente comme ça, et on me disait mais pourquoi t'es fâchée tout le temps. Je disais mais je suis pas fâchée en fait, c'est juste comment je suis. Et en Égypte, ben c'est génial parce que la manière de parler des gens correspond hyper fort à comment moi je m'exprime, tu vois. Mais du coup, c'était genre, ah, waouh. En fait, tu vois, il y a des endroits où c'est totalement normal d'être comme je suis, en fait. Enfin, tu vois, et c'était super cool de découvrir ça. Et donc, oui, l'arabe, cette langue, la manière de faire des gens là-bas m'a beaucoup nourri, rassuré sur qui j'étais ou qui j'avais envie d'être, en fait. Papa de mes enfants est belge, mais il est venu à ce moment-là déjà, donc on habitait longtemps ensemble là-bas. Donc voilà. Et puis notre fille devait naître là-bas, et donc comme on était très frustrés de ça, ben, on s'est dit qu'on retournait y vivre un an, juste pour les faire découvrir autre chose. En fait, je crois que ce qui est vraiment important pour nous dans ce projet-ci avec eux, c'est de dire, en fait, il y a des endroits dans le monde où on vit différemment, où on perçoit les choses différemment, où on envisage la vie différemment. Je crois que ça s'est révélé à moi pendant le Covid, où je suis retournée pour faire une projection privée de Shems, justement, et je me suis dit, waouh, en fait... Ici, on ne pense pas qu'on peut contrôler la vie jusqu'à la mort, quoi. Qu'on peut contrôler la mort. Ici, en Égypte. Hein. Tandis que c'est ce qui me rend dingue ici, en Europe. C'est ce besoin, cette espèce de croyance qu'on peut tout contrôler jusqu'à la vie et la mort. Mais c'est faux, en fait. On n'est rien, en fait. Et juste cette petite connaissance-là, que qui me vient de là, de l'Égypte, c'est bizarre, mais ça me rassure, moi. Ça me rassure de me dire, ok, je fais tout ce que je peux, mais bon, il y a des choses qui se passent pas comme j'ai décidé. C'est juste parce qu'en fait, non, on contrôle pas tout, quoi. Et ça c'est une des choses, parce que je crois qu'il y a plein de choses culturellement, de ce qui se passe là-bas, qu'on avait envie de faire découvrir, mais toi, de les mettre dans un autre bain, quoi. Après, c'est pas simple, hein. C'est pas juste facile et chouette, et genre, on va faire du cheval aux pyramides, c'est aussi dur, mais c'est une épreuve qu'on a choisie, et donc je pense que c'est ok, quoi. C'est ce qu'on essaie de se dire. Mais ma mère, elle est hyper fière, quoi. Ma mère, elle... Enfin, je sens beaucoup de fierté, je sens... Et elle est toujours là, quoi. C'est ma fan numéro un, quoi. Elle revient aux projections, même si elle a déjà vu le film 3 fois, enfin... Et c'est gay, ça me porte beaucoup, et je trouve que ma maman est une femme extraordinaire, dont j'apprends tellement aussi, quoi. Elle a été malade, gravement. C'est un peu une survivante, comme ça. Il y a plein de... Elle a vécu pas mal de trucs assez difficiles, mais elle est là. Je crois que ça m'a fait réaliser aussi à quel point tout son parcours, son expérience et tout, à quel point on dénigrait un peu ce que les personnes plus âgées et déjà à la retraite ou quoi pouvaient nous amener, nous, à nous. Enfin, tu vois, il n'y a pas trop ce truc de passation comme ça, et je trouve que c'est un truc qui nous manque vraiment, quoi, qui pourrait créer du lien et de l'intelligence, en fait, dans comment on fait les choses. Donc voilà, elle le fait bénévolement, mais c'est pas... c'est un exemple, mais c'est pas très durable comme déjà en Égypte, la vie de famille, la solidarité, pas pareil. Alors oui, il y a pas le système de redistribution de l'État, c'est une dictature, ok, tout ce que tu veux, mais en fait les gens entre eux sont beaucoup plus solidaires quand même. Et bon, après, quand je discute de ça avec des potes égyptiens, ils deviennent fous parce qu'ils me disent, mais attends, Pauline, tu vas dire, ils voient l'autre côté aussi. Donc voilà, je dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien, je dis juste qu'à un moment donné, c'est aussi une posture intéressante et d'humilité de dire, ben moi je vais en Égypte pour apprendre quelque chose, et c'est pas moi qui vais aller apprendre aux Égyptiens, aux Égyptiennes quelque chose, en fait. Non, tu vois, ça peut aller dans l'autre sens, et juste ça, c'est déjà, je crois, pas mal, quoi. Voilà. Donc ma fille va avoir 9 ans en janvier et mon fils 6 ans là le 3 décembre. Ils vont dans l'école où leur papa donne cours, donc ils vont dans une école française, mais c'est les seuls blancs, quoi. C'est une école d'Égyptiens, donc c'est des Égyptiens qui apprennent le français. C'est un vieux truc, en fait. Il y avait plein de missions catholiques, donc il y a encore des écoles comme ça, mais c'est une école qualifiante pour le bac, enfin, donc c'est une école française, enfin, reconnue par la France, ouais. Mais en plus ils sont en néerlandais ici à Bruxelles, donc mais ils vont reprendre, ouais, je pense qu'ils vont reprendre sans problème. C'est un peu fou, mais moi, j'ai une conviction que ce qu'ils vont vivre là est une expérience qui va changer leur vie en bien, quoi. Ça, j'en suis convaincue, que c'est... Même si c'est un peu dur, à certains moments, c'est quand même un truc génial. Mon mari, il a eu une expérience un peu... Il a connu le soufisme en Égypte. Il a passé du temps dans des zawiyas, c'est des petites mosquées, et avec des soufis, et dans des célébrations comme ça, dans des zikrs. Donc c'est des moments de pratique spirituelle où on répète le nom d'Allah, enfin des choses comme ça. Et ça me fascine. Et moi, je suis pas là-dedans, mais ça me fascine. Je suis hyper curieuse de ça, de ce monde-là. Et puis j'ai lu, moi ça il y a déjà quelques années, Soufi mon amour. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, lui, il était déjà un peu en relation avec des soufis. On a des amis qui sont vraiment soufis. Et alors, du coup, j'ai demandé, mais qu'est-ce que je peux lire d'autre ? Enfin, donc j'ai commencé à lire des trucs aussi, par rapport à ça. Et c'est trop beau, quoi. C'est trop beau comme manière d'envisager la vie et la spiritualité, quoi. C'est... Je crois que Petite, c'est un projet de film hyper personnel, mais... tu vois, c'est en même temps très collectif, et donc c'est ça qui était là, c'était ce qui était un peu challenge à trouver, et en même temps vraiment chouette, c'est de trouver une sorte d'intimité collective. C'est une histoire qui est la mienne, mais c'est aussi notre histoire, tu vois. Et ça, c'était passionnant. Mais non, c'est pas du tout une commande, et on était proche de tous ces événements en ayant grandi à Charleroi. Ma petite sœur, elle est insomniaque depuis l'affaire du trou. Jusqu'à maintenant, quoi. Donc, je crois que le projet est vraiment né dans ma tête, en mode, il faut que je fasse quelque chose là-dessus, au moment de la sortie de prison de Michel Martin. C'est à ce moment-là, je pense. Mais, en fait, au départ, je voulais en faire une... J'ai pensé à plein de choses. Je pensais en faire une installation documentaire, mais avec un peu la même forme que ça pour l'instant, donc archives, témoignages quand même, et puis en plus des photos, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à... Enfin, j'ai d'ailleurs écrit un traitement de fiction... Toujours dans le traumatisme, hein, toujours des années plus tard. Enfin, ça, c'était clair que c'était pas quelque chose que je voulais faire, qui se passe pas quelque chose qui se passe au moment des faits du tout. Et puis c'est grâce un peu à Karina, qui est notre coproductrice française, qui m'a dit allez Pauline, il faut que tu... Je lui ai donné toute la matière que j'avais déjà là-dessus, et elle m'a écrit et ils ont écrit un dossier qui était pas parfait, mais qui m'a aidé à fond, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui dit en fait ce que tu vas faire c'est super et je crois vraiment en toi, et qu'ils m'ont filé une petite avance de droit d'auteur, pas grand chose mais symbolique, mais c'était en mode maintenant tu y vas, quoi. Et donc j'ai écrit un premier dossier et j'ai eu une aide de la SCAM, et grâce à cette aide de la SCAM là j'ai vraiment écrit un dossier, et puis c'est Laurence qui a produit aussi Rester Vivant, et Shems qui finalement a repris un peu la main, parce que ça restait quand même une histoire belge plus que française, et on n'a pas eu les premiers financements en France, et donc voilà, ça s'est mis comme ça. Mais je crois que c'est, enfin, tu vois, pour l'instant, bon, j'en ai fait 4, mais je crois que c'est mon meilleur film, et que c'est celui qui est le plus personnel, alors que c'est le plus collectif aussi, tu vois. C'est bizarre.
Une nouvelle affaire de disparition d'enfants.
J'ai l'image de mes parents qui sont complètement sidérés, comme ça, qui ne parviennent pas à éteindre le téléviseur.
Ils ont tout dit à la télé. Elles étaient maigres. On a vu des images.
Het land was volledig in shock.
J'ai deux projets, en fait. Un court-métrage que j'aimerais bien tourner au Caire l'année prochaine, quoi. Tant qu'on y est, quoi. C'est quand même profiter d'être là, sur place, et même pour les repérages et tout, c'est super chouette d'y être vraiment sur le long, quoi. Et ça, c'est une sorte, ça s'appelle Partout la lumière, et c'est une sorte de récit initiatique d'un jeune expat au Caire qui va découvrir le soufisme, enfin mettre un pied dedans, et du coup ça va un peu changer sa vision du monde qui l'entoure, quoi. Il va un peu sortir de sa bulle d'expatrié et voir les choses un peu autrement. Donc ça, c'est un court métrage. Et puis il y a un long métrage qui s'appelle C'est tout ce qu'on aura, et ça c'est sur je dis toujours que c'est sur l'égalité des chances, je sais pas vraiment, c'est le sujet général, mais c'est une histoire. Allez, il y a deux personnages principaux, un jeune et une prof, et c'est essayer de voir comment tu vois, tu peux te sauver par l'école quand tu viens d'une minorité discriminée. Est-ce qu'il y a une forme d'émancipation possible par l'école? Parce que c'est toujours les exemples qu'on nous donne, en disant, mais tu vois, on nous donne des exemples de jeunes issus de l'immigration. J'aime pas trop cette manière allez, de labelliser, mais bon voilà, j'ai pas trouvé mieux encore, mais qui réussissent parce qu'ils sont devenus avocats, médecins, hein. Mais tous les autres, enfin toutes les autres histoires où ça aurait pu marcher, mais à un moment donné le système est quand même trop fort, quoi. Et malgré les volontés individuelles, ça marche pas. Et donc c'est ça, c'est une histoire là-dessus. Et donc voilà. Et j'ai rencontré, quand je tournais petite, sur le parking de la piscine de Gilly, des jeunes gens top en fait, vraiment super, qui ont commencé à causer de la représentation médiatique, enfin de plein de sujets de dingue. Et je me disais, mais ils sont brillants, c'est... ces jeunes. Et puis il y en avait un dans le tas qui m'a dit, moi je veux être acteur. Et puis j'ai dit, je prends ton numéro, on ne sait jamais. Et puis je l'ai rappelé là et je me suis assise avec eux. Plusieurs heures, et ils m'ont raconté plein de trucs et ça nourrit à fond mon écriture, et j'ai envie de les associer. J'ai pas envie que ça reste juste des gens que je rencontre pour nourrir le truc, mais vraiment que j'associe à l'écriture du film. J'ai pas encore trouvé comment, on verra ça dans un deuxième temps. Je vais déposer une aide à l'écriture en janvier et puis on verra. Mais ouais, l'idée est vraiment d'essayer de faire les choses un peu autrement. Mais ça reste, c'est de la fiction, mais je crois que ça reste avec une assise et une base très documentaire.
Vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur vos applications de podcast.